rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les cieux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qu'il les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. J'aimerais donc, en guise d'introduction à ce psaume, vous poser quelques questions très simples. Et ce sera à vous de vous lever la main, ou même sans vous lever la main, de proposer une réponse. On va apprendre les uns des autres. Ensuite, une fois que nous aurons fait les premières slides, je vais vous demander de travailler avec les voisins ou les voisines sur certaines parties du psaume. Dans nos Bibles, le psaume se présente à peu près comme ça, à moins que vous ayez une édition où l'éditeur fait un tout petit peu de travail pour diviser le texte en morcelés. Mais il y a une chose que vous remarquez directement sur la fiche de travail, c'est que les psaumes et la poésie hébraïque, et finalement, tout cela est construit d'une façon tout à fait particulière. Alors, quel est cette forme particulière? Il faut parler très fort parce que je suis un vieux type. Du parallélisme. Donc, on vous donne un exemple aujourd'hui de l'emploi de quelques méthodes d'études bibliques. Le parallélisme indique le regroupement d'idées en phrases parallèles. Si c'est la première fois que vous lisez l'Ancien Testament, ça peut vous surprendre parce que le psaume devrait rimer, selon nous. En Occident, on a l'habitude de terminer une phrase par des sons qui riment. Mais la poésie hébraïque rime des idées. Et ça se présente sous forme d'idées parallèles. Parfois, on dit une chose et puis on reformule la proposition en la disant dans le sens contraire. A est vrai, et ça veut dire que le contraire de A est aussi vrai. Ou A et puis non A. C'est comme ceci et non pas comme cela. Les proverbes sont construits de la même manière. Mais est-ce que vous observez autre chose dans ce psaume par rapport à la construction des idées? On a des idées parallèles. Est-ce qu'il y a un autre élément que vous remarquez? Dites-moi. D'accord. Donc on parle d'abord des cieux, ensuite de la loi de l'Éternel, et puis le serviteur. Il y a une progression. Il y a effectivement trois grandes parties de ce psaume et nous allons les étudier maintenant plus en détail. Une autre chose que vous pouvez faire pour voir le texte un peu mieux, c'est de diviser, si vous faites votre propre travail d'analyse de texte, de diviser les sujets, verbes et les compléments directs, comme sur ce slide. Où vous voyez un peu mieux les verbes et les compléments directs. Mais ce qui est le plus important ici, c'est cette division en trois grandes parties du psaume. Alors, j'aimerais que nous nous divisions en trois groupes, ou même peut-être six, ce serait mieux, six. Nous sommes à, disons, peut-être une trentaine de personnes au max. Donc, disons, à vous de retrouver quatre autres personnes en plus de vous-même, pour avoir des groupes de cinq. Je vous laisse faire, hein, vous n'êtes pas des enfants. Cinq personnes, autant de groupes que possible. Et j'aimerais que les deux... Essayons de faire ça d'abord. On va changer de place pour que vous soyez regroupés dans des groupes de cinq. Et puis je vous donne des instructions. Des groupes de cinq. Oui, vous pouvez décrocher les chaises si c'est nécessaire. Voilà, ça marche. Alors, on a combien de groupes ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors, je vais demander à ce groupe-ci, faites très attention ici parce que je ne voudrais pas me répéter parce que sinon on se perd. Le premier groupe, le deuxième groupe ici, et Christy, ton groupe, les trois groupes, vous allez faire une analyse de la première partie qui se trouve ici, les versets 1 à 6. Je vais vous demander, je vous donne des instructions plus détaillées dans un instant. Les autres groupes de ce côté de la pièce, je pense qu'il y en a quatre, n'est-ce pas? Ah, il y a un autre groupe là au fond. Ok, vous aussi. Vous faites une analyse de cette partie-là, la deuxième partie du psaume. Je vous donne des instructions précises dans un instant. Et tous les groupes de ce côté-ci, vous faites la dernière partie, versets 11, 12, 13 et 14. D'accord? Alors, pour la première partie, j'aimerais que vous essayiez de vous rappeler de toutes les questions que je vous ai proposées dans la première séance de notre conférence. Interrogation initiale. Vous vous souvenez? Il y avait une suite de questions que vous pouvez poser par rapport à ce texte. Concernant la structure, les sujets, les verbes principaux, le but, le pourquoi, enfin je ne vais pas vous réciter toutes ces questions, interroger le texte pour faire une interrogation initiale. Et ce qui est très important pour vous aussi, c'est de vous poser la question, quel est le rapport entre la première partie du psaume et les deux autres parties? Mais faites un examen plus détaillé de la première partie. Question? D'accord. Deuxième groupe. Ici, dans cette deuxième partie, vous avez une discussion sur la loi de l'Éternel. Quelles sont les nuances entre les différents noms attribués à la parole de Dieu dans cette partie du psaume? Quelle est l'importance de ces différences? Pourquoi est-ce que David, qui est l'auteur de ce psaume, inclut cette partie au milieu du psaume? Quelle est l'utilité de cette partie? Vous allez vraiment vous concentrer sur la partie 2, mais vous allez faire aussi comme les premiers groupes. Quel est le rapport entre la partie 2 et la première partie, la dernière partie? D'accord? Détail sur la deuxième partie et puis le rapport avec les deux autres. Partie numéro 3. Là, encore une fois, comme on a dit tout à l'heure, madame nous a signalé que on personnalise la chose à la fin du psaume. Alors vous allez vous pencher sur la partie 3 en vous posant les mêmes questions que nous avons citées tout à l'heure, interrogation initiale. Posez-vous toutes sortes de questions, clarifiez le sens des mots qui sont pas très clairs. Et puis, quel est le rapport entre cette partie du psaume et partie première et deuxième? Y a-t-il des questions?